Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes le 30 avril 1945 dans un appartement munichois. Une jeune femme se lave nue dans une baignoire. A priori, rien d'extraordinaire. Sauf que la salle de bain est celle d'Adolf Hitler et que la femme est la photographe américaine Lee Miller. Sur le tapis de bain blanc sont posés ses godillots militaires, pleins de poussière des camps de la mort qu'elle vient de traverser. Elisabeth Miller est pourtant née loin de l'Allemagne, à Poughkeepsie, exactement dans l'état de New York en avril 1907. Elle connaît une enfance marquée par le drame, un viol alors qu'elle n'a que 7 ans, et une atmosphère particulière à la maison où son père, photographe amateur, aime à la faire poser nue, enfant, adolescente et jeune adulte. La scolarité de la jeune fille est chaotique. Elisabeth est souvent renvoyée des établissements qu'elle fréquente. Il faut toutefois reconnaître que ses parents ne font pas de distinction de genre entre elle et ses frères et la poussent à assumer son goût pour la technologie et la chimie, deux disciplines encore considérées comme peu féminines. À 18 ans, Lee part pour un an d'études à Paris avant d'intégrer l'Art Student League de New York l'année suivante. Parallèlement, elle danse dans une revue et devient un mannequin lingerie pour un magasin de la 5e Avenue, car la jeune femme est belle. Incroyablement belle même. Un jour, le destin place sur son chemin un grand éditeur de presse. Son nom, Condé Nast. L'homme la retient alors qu'elle s'apprête à traverser la rue sans voir qu'une voiture arrive à vive allure. Subjugué par son physique, il lui propose immédiatement de poser pour le magazine Vogue dont il est le directeur. Un mois avant son 20e anniversaire, Lee fait donc la couverture du prestigieux magazine américain. À l'époque, on ne met pas encore de photos en une. Son visage est donc dessiné, peau diaphane, lèvres rouges, sous un chapeau cloche bleu à la dernière mode, assorti à son regard profond. Mais Lee n'est pas entièrement à l'aise dans le rôle de mannequin. Elle ne veut pas être qu'un objet sous les yeux des autres. Alors pendant les séances, elle observe de plus en plus les techniques des photographes. Elle a envie de passer derrière l'objectif. Quelques mois plus tard, Lee Miller repart pour Paris, le cœur vibrant du monde de l'art. Elle y va pour rencontrer Man Ray, le photographe d'avant-garde déjà célèbre pour ses collaborations avec Marcel Duchamp et ses œuvres dada. Dans un café, elle ose l'aborder. « Lee Miller, je suis votre nouvel élève. » Man Ray n'en prend pas. Mais comment dire non à cette jeune femme si audacieuse ? Lee devient son modèle, son élève, puis très vite son amour et sa muse. Il la photographie sous tous les angles. Ensemble, ils travaillent, redécouvrent par erreur le procédé de solarisation et le rayogramme qui leur permettent les créations les plus surréalistes. Devant leur objectif défilent l'effervescent milieu artistique de Montparnasse. Lee joue pour Jean Cocteau, fréquente Paul Éluard. Plus tard, elle posera à plusieurs reprises pour Picasso. Au début des années 30, Elisabeth quitte Man Ray et Paris. À New York, elle fonde son propre studio avec une certitude. « Je préfère prendre une photo qu'en être une », dit-elle. L'affaire ne survit pas longtemps. Elle part pour le Caire avec un businessman égyptien qu'elle épouse. Cette histoire-là non plus ne dure pas. À 30 ans, Lee Miller est de retour à Paris. Nouvel amant, le peintre britannique Roland Penrose. Nouvelle destination, l'Angleterre. Quand éclate la guerre, Lee est à Londres. Elle pourrait regagner les États-Unis, s'y mettre en sécurité, mais rien ne l'effraie, pas même les bombes qui commencent à tomber sur la capitale anglaise. Lee est, à force d'obstination, embauchée par le Vogue anglais, qui compte pourtant déjà dans ses rangs l'un des plus grands, Cecil Beaton. Nous sommes en janvier 1940, et pendant les premières années de la guerre, Miller immortalise des femmes puissantes dans les pages mode ou dans des reportages sur l'effort de guerre. La pénurie des tissus et des matières premières l'oblige à une plus grande créativité, avec un objectif, réconforter le lectorat et l'aider à garder le moral. Pour le gouvernement, Lee documente le Blitz, les raids aériens allemands qui détruisent Londres. Un mois après le débarquement, elle part pour la France avec une accréditation de reporter de guerre. Dans le sillage de l'armée américaine, elle découvre toutes les atrocités du conflit. Elle assiste au siège de Saint-Malo, à la libération de Paris, continue son voyage vers l'Est jusqu'à entrer dans les camps de la mort. Buchenwald, Dachau, des images terribles qui ne la quitteront jamais. Horrifiée, la photographe saisit immédiatement l'importance de relever le maximum de preuves des crimes nazis. Quelques jours plus tard, elle est donc à Munich. Et le jour du suicide de Hitler, elle prend ce fameux bain dans la baignoire de son appartement. Lee est devenue GI, dit David Sherman, photographe de Life, avec qui elle arpente l'Europe sans montrer aucun signe de fatigue. Dès la fin du conflit, pourtant, Lee Miller revient à la photographie de mode. Elle est à Paris en 1945 pour signer la campagne de la créatrice Elsa Schiaparelli. Encore une amitié datant de ses années parisiennes. Mais le contraste entre ce qu'elle a vécu et la vie d'avant est trop difficile. Les sujets sur la mode et la décoration ne la passionnent pas. En réalité, elle souffre d'un trouble de stress post-traumatique. Pour s'apaiser, elle boit avec excès. Puis elle découvre qu'elle est enceinte. Son petit garçon, Anthony, naît en 1947. 2 ans plus tard, Lee et Ronan Penrose achètent une ferme dans le Sussex, au sud de l'Angleterre. À Farley's House, la photographe goûte à une vie normale, ou presque. La maison accueille régulièrement tous les amis artistes du couple, Picasso, Man Ray, Jean Dubuffet ou Dorothea Tanning. Progressivement, Lee délaisse ses appareils photo pour les poêles et les marmites. Cuisine la calme, l'aide à combattre la dépression. Mais même derrière les fourneaux, Lee Miller reste une artiste surréaliste. Dans ses casseroles, le poulet devient vert, les pâtes bleues. Lee se met même au défi de cuisiner des repas en utilisant des aliments d'une seule couleur. Ses desserts colorés prennent le nom poétique de tapis persan. Plusieurs de ses recettes sont publiées, en vogue évidemment. Ce sera là sa dernière carrière. Lee Miller s'éteint en 1977, à l'âge de 70 ans, au terme de plusieurs vies fascinantes.